En février dernier, l'UNSA Éducation Bretagne a alerté l'Agence régionale de santé quant à la situation des élèves en situation de handicap et leur accompagnement. Pour parler de cette problématique, on reçoit Philippe Leroy, secrétaire régional de l'UNSA Éducation Bretagne. Bonjour, monsieur Leroy.
Bonjour, Valentin.
Alors du coup, on va essayer de d'abord définir les choses pour commencer. Quels facteurs font qu'un élève est considéré en situation de handicap en France ?
Alors, un élève est considéré en situation de handicap en France à partir du moment où les maisons départementales du handicap décident de lui accorder cette reconnaissance. Il peut y avoir le handicap est multiple, hein, ça peut être un handicap médical, ça peut être un handicap avéré ou non. Et en fonction des situations, les maisons du handicap reconnaissent cette situation et attribuent ou non des moyens dédiés pour aider cet élève à surmonter ce handicap.
Donc l'UNSA Bretagne a alerté sur plusieurs problèmes quant à la gestion justement de cette situation et ses conséquences tout au long de ces derniers mois, donc on va donc en parler. Pour poser une base, on a les chiffres d'octobre 2022 du rectorat de Rennes qui dit qu'il y a 19 250 élèves en situation de handicap qui sont scolarisés en Bretagne. Alors parmi ces derniers, vous estimez-vous qu'il y a plus de 3000 élèves qui relèvent d'établissements spécialisés qui sont toujours en attente de place, ce qui représenterait près de 20% de la situation nationale. Alors comment on peut expliquer qu'il y ait de moins en moins de places disponibles dans ces établissements spécialisés alors que la demande augmente ?
Alors, comme on n'a pas de réponse aux différents courriers qu'on envoie, on ne peut faire que des supputations. Alors, ce qu'on pense, c'est que d'une part, en règle générale, il y a des établissements qui ont fermé. Donc, il y a moins de places qu'auparavant. Il y a aussi moins de places pour les élèves, mais aussi pour les adultes. Ce qui fait que de jeunes adultes qui, normalement, devraient quitter les établissements pour mineurs restent à occuper des places dans les établissements pour mineurs. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a quand même une augmentation en règle générale de très forte, puisqu'en 10 ans, il y a eu 40% d'enfants relevant de la situation de handicap supplémentaire en Bretagne. 40%. Donc automatiquement, il y en a aussi qui se retrouvent normalement à devoir aller dans des structures médicalisées pour qu'elles puissent bénéficier des soins qu'ils doivent avoir. Et donc, donc les structures n'ont pas suivi non plus. Les structures n'ont pas suivi. Donc ça pose énormément de problèmes. Et ce qui nous interpelle, c'est cette hausse de 40% en Bretagne pour le handicap en général, et que la Bretagne représente à elle seule, avec 4 départements, il y a quand même 101 départements en France, avec 4 départements, 20% de la masse des élèves avec des troubles importants du comportement qui devraient être dans des structures médicalisées et qui n'y trouvent pas de place. Donc tout ça, ça nous interpelle. Que se passe-t-il en Bretagne ? C'est pour ça que j'ai alerté l'ARS il y a quelques mois. Et après avoir fait dans chaque réunion éducation nationale, d'avoir posé la question, et pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse.
Et quelles sont un peu les conséquences qui peuvent peser du coup sur les élèves, mais aussi sur les familles, sur ces élèves qui sont atteints de troubles du comportement, mais qui malheureusement sont scolarisés dans des établissements ordinaires ?
Alors, donc des élèves qui ont des troubles du comportement et qui doivent être médicalisés, c'est vraiment des élèves pour lesquels c'est très compliqué d'être en structure dite ordinaire. Alors, on va retrouver des élèves qui peuvent être violents avec leurs camarades, pour des raisons diverses et variées, voire incontrôlables, et donc avec des adultes qui doivent les maîtriser physiquement pour éviter soit qu'ils soient violents avec leurs camarades, soit qu'ils soient violents avec eux-mêmes. Il y a des enfants, si on les lâche, ils vont aller se mettre la tête dans les murs. Donc vous imaginez un petit peu la tension que ça peut générer dans une classe quand il y a un élève comme ça. Alors, au niveau donc des conséquences que ça a, d'abord ça a une conséquence, on va parler humaine, parce que ces enfants, ils n'ont pas de soins. ils devraient avoir des soins, ils n'ont pas de soins. Donc c'est une première maltraitance. Deuxième maltraitance pour leur famille, parce que tous les gens qui nous écoutent et qui sont parents savent la difficulté, la tristesse, la peine que ça peut être pour un parent d'avoir un enfant différent, et encore plus si cet enfant, finalement, on ne lui apporte pas les solutions qu'il devrait avoir. Des difficultés pour les petits camarades de ces enfants-là, parce que bien entendu, c'est hyper traumatisant comme situation, et ça peut être très violent. Des difficultés pour les familles de ces petits camarades, et puis des difficultés pour le personnel d'encadrement. Les AESH, les accompagnants d'enfants en situation de handicap, qui ne sont pas formés à des situations de violence pareilles, et puis les enseignants qui ne sont pas non plus dans des situations propices à pouvoir faire l'enseignement, dispenser l'enseignement pour lesquels ils sont formés et ils sont payés, parce qu'ils ne sont pas du tout formés à ces situations-là. C'est des enfants, lorsqu'ils sont en structure médicalisée, qui sont par groupe de 3, 4, 5, avec 2, 3 adultes. Voyez, donc, vous imaginez une classe de 28 élèves, une AESH qui s'occupe de cet enfant, peut-être une autre qui s'occupe d'un autre élève, et puis l'enseignant qui est là à devoir gérer la multiplicité du public qu'il a face à lui, avec des contraintes de programme, des contraintes administratives, et puis en même temps cette contrainte là d'élèves qui doivent occuper énormément de temps. C'est juste impossible.
Et ce problème de place et d'accueil des élèves en situation de handicap, est-ce qu'on juge, vous avez commencé à en parler, avec un manque d'accompagnement personnel sur les plus de 19 000 élèves qui sont concernés en Bretagne, il y a plus de 1800 qui sont sans accompagnement du tout, selon le rectorat toujours. Comment expliquer qu'il y a près de 2000 élèves dans ces quatre départements de Bretagne qui ont besoin d'un accompagnement personnel, mais qui ne sont absolument pas accompagnés au quotidien à l'école ?
Alors, c'est assez simple à comprendre, c'est la MDPH qui notifie les accompagnements, les besoins en accompagnement, et partant de là, l'éducation nationale est obligée de procurer le personnel d'accompagnement décidé par la MDPH. Comme vous le savez, ces personnels sont employés sur la base du SMIC, ils sont payés sur la base du SMIC, et non qu'un temps partiel. Donc, c'est des personnels qui sont rémunérés 800 euros par mois, qui sont contractuels, et qui 800 euros par mois, c'est difficile de vivre avec 800 euros par mois, c'est un premier point. Quand en plus, on doit s'occuper d'élèves très très difficiles, évidemment, on a un turnover énorme. Le nombre de personnes susceptibles d'être intéressées par ces missions n'est pas extensible. D'accord. Et vu l'augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap, il en faut de plus en plus. Et dans le même temps, comme c'est pas bien payé, les gens, au bout d'un moment, il y en a un fort pourcentage qui reste quelques mois et qui s'en vont voir ailleurs, qui traversent la rue, comme dirait l'autre, pour aller chercher un autre métier mieux payé. Et c'est bien normal, tout le monde peut le comprendre. Donc voilà comment on se retrouve dans une situation où un grand nombre d'élèves qui devraient être accompagnés, qui ne bénéficient pas de cet accompagnement. Lorsqu'en plus, on rajoute le problème de violence qu'il peut y avoir, parce qu'un certain public d'élèves, dont on parlait tout de suite, ne devrait pas être en milieu ordinaire et s'y trouve, et est accompagné par des personnes qui ne sont absolument pas formées et qui n'ont pas du tout les outils et qui ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir s'occuper d'eux, quand on s'est fait mordre au sang une fois, qu'on a eu un crayon planté dans le bras, qu'on s'est fait retourner un doigt une fois, cracher, au bout d'un moment, pour 800 euros par mois, on décide d'arrêter. Et c'est ce qui se passe. Donc il y a un service au rectorat qui est dédié au recrutement de ces personnels à ESH. Ils font des contrats, mais alors voilà, c'est à la chaîne, quoi. Ils font des contrats à la chaîne, ils cherchent du monde à la chaîne. Et puis bah, il y a des démissions à la chaîne en même temps. Donc ça épuise aussi les services. Ça épuise des services, c'est terrible.
Oui, ça, parce que c'est une situation qui est très précaire. C'est globalement des CDD de 24 heures à 850 euros par mois. Mmh. Avant de s'intéresser sur les améliorations qu'on peut y apporter, quelle charge aussi ça fait peser cette situation à ces AESH, à ceux qui essaient de continuer cette profession? Est-ce qu'il y a aussi une charge mentale qui pèse sur eux, une charge de culpabilisation? Comment ça peut se passer pour eux au quotidien?
Ce sont des métiers de proximité, comme les métiers de la santé, les métiers de l'éducation. C'est des métiers où on vient parce qu'on a la volonté d'être utile, avant tout. Hein. C'est pas pour rouler en Porsche qu'on va vers ces métiers-là. C'est pas pour, voilà. Donc, c'est des métiers... Il faut qu'on ait vraiment un sens dessus et qu'on ait le sentiment d'être utile. Très rapidement, si on n'est pas dans des bonnes conditions pour exercer ces professions, eh ben on culpabilise parce qu'on se rend compte que, eh bien, on n'a pas, ce qu'on fait, c'est pas bien. Lorsqu'une infirmière est obligée n'a pas le temps suffisant à accorder à chaque patient, lorsqu'une aide-soignante n'a pas le temps suffisant à accorder à chaque patient, eh ben, c'est exactement la même chose dans l'éducation nationale. Lorsque l'enseignant n'a pas le temps suffisant pour accorder à ses élèves ou que l'AESH n'est pas en capacité de s'occuper convenablement d'un élève parce que bah, c'est trop compliqué, eh bien, très rapidement, on se retrouve en situation où on se dévalorise soi-même à ses yeux parce qu'on est en échec quelque part, on va travailler la peur au ventre. Enfin, il y a toutes ces problématiques-là, et puis avec toutes les pathologies qui peuvent être développées derrière, burn-out, dépression, enfin tout ce que vous voulez, et qu'on connaît bien, des maladies modernes. Et donc, bien évidemment, ça n'aide pas pour recruter.
Hein. Et qu'est-ce qui pourrait justement être proposé pour revaloriser ce métier qui est délaissé, et ainsi peut-être augmenter les effectifs et pour que chaque élève puisse être accompagné?
Bah, d'abord, il faudrait que ce soit un vrai métier, hein, et pas simplement un métier de pour contractuel. Donc, qui dit vrai métier, bien dit une vraie formation, un concours, puisqu'on est dans la fonction publique, un concours avec un cadre statutaire réglementaire.
Oui, parce que là, pour mettre le contexte, en gros, pour être à ESH, il y a juste besoin d'un diplôme du baccalauréat ou de la petite enfance, c'est ça? Pour un CAP petite enfance.
Je ne sais même pas exactement ce qui est demandé, mais quand on est en situation de pénurie comme aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas être très regardant sur ce qui est demandé, hein, ce qui n'enlève rien du tout à la bonne volonté des personnes qui sont dans les classes. Mais toujours est-il qu'ils sont sur un métier précaire. Et donc, il faudrait à la fois un statut, un cadre et une rémunération décente, quoi. Une rémunération décente, parce que là, 800, 850 euros par mois, qui peut vivre aujourd'hui avec une somme pareille, quoi? C'est pas possible. Voilà, donc ça. Et puis, bien entendu, eh bien, dans ce cadre-là, eh bien, que les accompagnants d'enfants en situation de handicap en milieu scolaire n'aient plus à accompagner des élèves qui n'ont rien à faire en milieu ordinaire. Quand même, c'est la moitié, l'année dernière, la moitié des AESH en Ille-et-Vilaine, hein, la moitié des AESH accompagnaient des enfants qui ne relevaient pas du milieu ordinaire. La moitié. Donc vous imaginez, ça épuise toutes les possibilités de recrutement, puisque c'est ces personnes-là qui quittent l'éducation nationale en premier, bien entendu.
Donc là, on a déjà fait plusieurs constats. Donc il y a des élèves qui sont délaissés, des familles qui sont épuisées, les AESH sont de plus en plus précarisés. Alors ça peut paraître une question un peu naïve, mais qui est nécessaire en fait. Pourquoi tout simplement les pouvoirs publics ne prennent pas le problème en main?
Alors, il n'y a aucune question naïve là-dedans, parce que c'est tellement le bon sens, votre question, là, Valentin, que franchement, c'est vrai qu'on pourrait se la, on pourrait se la poser. Mais vous savez, on est en Bretagne, là, il y a plusieurs centaines de postes d'enseignants qui sont supprimés, alors que, alors même qu'on voit que c'est compliqué. Il y a des établissements qui n'ont pas... enfin, les parents d'élèves savent que quand il y a un enseignant absent, bah, il n'est pas forcément remplacé, ça met des semaines, voire même dans des classes de, d'examen, eh bien, il n'y a pas d'enseignant de certaines matières. Donc, ça, ça les... donc voilà. Donc, toutes ces questions-là sont assez c'est assez pénible parce que en fait on sait ce qu'il faudrait faire. Il faudrait augmenter le budget de l'éducation nationale, hein. C'est tout, augmenter le budget de l'éducation nationale, arrêter de rendre, comme l'a fait monsieur Blanquer la dernière année où il était ministre, des centaines de millions d'euros à Bercy, et se servir de cet argent là pour augmenter bien les AESH, pour améliorer les salaires des enseignants et des personnels de l'éducation nationale en général, parce que quand même c'est aujourd'hui il y a un vrai problème, un vrai souci de recrutement, hein, à tous les niveaux de l'éducation nationale, dans les aussi bien au niveau des administratifs que des enseignants. Il y a un manque de recrutement. Et voilà, donc votre, je ne sais plus quelle était exactement votre question, mais moi, j'ai envie de dire quelque chose quand même. Moi, quand je suis un vieux syndicaliste. Quand j'ai commencé à être dans ma mission, on réclamait des postes, vous voyez ? On réclamait des postes, donc on voulait plus de postes pour qu'il y ait plus de personnel sur les missions. Aujourd'hui, on a des postes en nombre insuffisant et on nous en retire encore. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir des postes. Il faut encore avoir du personnel à mettre dessus. Et comme le ministère n'a plus suffisamment de candidats pour mettre sur les postes, eh bien, c'est simple, on retire, on ferme des postes. C'est ce qu'on a fait pour l'hôpital. Lorsqu'on ferme des services dans les hôpitaux, c'est pas simplement pour fermer les services, c'est parce qu'il n'y a plus de personnel dessus. Alors, on ferme les services. Eh bien, on est en train de faire la même chose dans l'éducation nationale, on supprime des postes parce qu'on n'a plus de personnel à mettre dessus. Quand même, juste il y a eu les concours là, de l'éducation nationale il y a quelques jours, là, hein, les concours d'enseignants. Le ministère à l'automne a été obligé de laisser 10 jours de plus, me semble-t-il, parce que ça manquait de candidats. Et là, les concours ont eu lieu, et dans certaines académies, il y a 40% des personnes qui s'étaient inscrites qui ne se sont pas présentées. Et les chiffres n'ont jamais été aussi bas, en plus, hein, d'inscrits. Donc voilà, donc tout ça, ça laisse songeur. Alors là, monsieur Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, nous parle d'une augmentation de salaire sans précédent. On attend de voir, mais il va falloir effectivement qu'il y ait une sérieuse augmentation de salaire, parce que sinon, on ne trouvera plus bientôt ni AESH, ni enseignants.
Et malgré tous vos alertes, vos appels à l'aide, est-ce que vous avez la sensation, le sentiment de ne pas être entendu, en fait ?
Oh bah ça, c'est clair. C'est clairement là, c'est la marque de fabrique du pouvoir en place depuis 2017. Regardez ce qui se passe avec la réforme des retraites. Là, hein. Il y a 93% des Français qui sont dans la rue, des actifs qui sont contre cette réforme. La représentation parlementaire, le gouvernement n'a même pas voulu prendre le risque de faire voter le texte à la représentation parlementaire parce qu'il avait peur que ça ne passe pas. Donc les sondages d'opinion disent que personne n'en veut. Là, ce soir, on va avoir la réponse du Conseil constitutionnel, mais ils écoutent personne. Personne. Ils promettent, ils parlent, et ils n'écoutent pas.
Et il y avait un dernier point que je voulais aborder avec vous. Vous avez donc adressé un courrier à la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé Bretagne, Élise Noguera. Dans celui-ci, vous alertez également, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, sur tout simplement l'augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap. Mmh. Alors selon les chiffres du CTRS, donc le comité technique spécial départemental, plus de 8300 élèves sont en situation de handicap cette année en Ille-et-Vilaine, contre un peu moins de 6000 il y a 10 ans. Cela représente donc une hausse de 40% en 10 ans. Comment on peut expliquer ce phénomène grandissant d'élèves en situation de handicap ?
Alors, moi justement, je ne l'explique pas. C'est ça qui m'inquiète. Je ne l'explique pas parce que on serait en 2010, à quelques années de la loi de 2005. Bon, mais là, on est en 2023, quoi. Ça fait quand même près de 20 ans maintenant qu'on accueille des élèves en situation de handicap dans les écoles. Ça fait donc voilà. Comment ça se fait que ça augmente encore ? Alors, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de santé publique et qu'il serait bon que, les pouvoirs publics se penchent là-dessus. Tout le monde sait que, il y a des problèmes de qualité de l'air, hein, par moment, avec les épandages de ceci, de cela en Bretagne, l'ammoniac, etc. Tout le monde le sait. Hein. Il y a des problèmes liés aux pesticides. On le sait aussi, ça a été documenté. Il y a tout ce qui est ondes électromagnétiques. Voilà, en tous les cas, il y a un fait qui est là, c'est qu'il y a une augmentation de 40% des enfants en situation de handicap. Ça veut dire qu'il y a 40% de plus de familles aussi qui sont impactés par ça. Et il est quand même temps de se pencher sur la question pour savoir ce qui se passe et ce qu'il faut faire pour améliorer les choses et éviter ce qui est lié à une pollution quelconque, que ce soit la pollution atmosphérique ou la pollution des ondes ou la pollution dans l'air, enfin je sais pas, mais en tous les cas il faut chercher les causes, il faut les noter, les désigner et désigner ce qu'il convient de faire pour y remédier. Alors bon, ça va pas être facile puisque bon, enfin bref, donc arrêtez avec les lobbies, d'être sous le joug des lobbies et penser un peu plus aux citoyens avant de penser à l'économie.
Ouais, donc c'est donc un sujet et un problème de santé publique. Et justement, dans votre lettre, vous appelez aussi l'ARS à prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il y a aussi un problème, un manque de communication entre les ARS et le ministère de l'Éducation nationale, ou du moins des compétences qui sont mal réparties?
Oh ben ça, c'est clair. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable communication entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Donc, il y a des champs de compétences qui, pourtant, normalement, sont intimement liés. Et on n'a pas le sentiment qu'on se parle, tout simplement. Donc, mais vous savez, c'est très simple. Hein. Moi, je représente la deuxième fédération de l'éducation nationale. Hein. Dans notre fédération, il y a les médecins de l'éducation nationale, il y a les personnels de médecins de l'éducation nationale qui sont en situation de disparition. Hein. C'est quand même un métier qui est presque en voie de disparition, tellement on en manque. Hein. Ils viennent de tirer la sonnette d'alarme et d'écrire au recteur, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ces personnes-là, c'est quand même les cadres de l'éducation nationale, les enseignants. J'écris à la directrice de l'ARS, j'ai pas eu de réponse. Voilà, pas de réponse. Donc, j'ai communiqué ce courrier, bien entendu, à la représentation politique régionale, hein, donc aux députés, aux sénateurs. Bon, bah, il y en a qui m'ont répondu, qui m'ont dit qu'ils avaient bien pris en compte cette remarque. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils s'étaient déjà emparés de ce sujet. Bon, bah maintenant, il faut qu'on sorte de ce non-sujet de réforme des retraites, là, parce que c'est vraiment un non-sujet, et qu'on parle des vraies choses qui intéressent les Français, le pouvoir d'achat, la sauvegarde des services publics, la santé, voilà. C'est ça qui est important. La santé, vous savez, c'est... Aujourd'hui, vous avez un enfant qui a un problème psychologique, vous pouvez attendre plus d'un an avant d'avoir un rendez-vous chez un pédopsychiatre, hein. Vous avez un problème de... On dit qu'il y a des arrêts de travail aujourd'hui, mais moi, je dois passer une IRM, là, parce que j'ai un petit problème au genou, là. C'est 3 mois d'attente. 3 mois d'attente. Alors, évidemment, bon, moi, ça va, je suis derrière un ordinateur. Mon genou, c'est pas trop gênant. Mais des gens qui sont toute la journée debout, comment ils font pour aller travailler comme ça? C'est pas possible. Donc, voilà, il faudrait vraiment s'occuper de la santé, de la justice, de l'éducation. Enfin, tout ce qui fait que... Tout ce qui est en train de partir en vrille actuellement. C'est, et quand on entend les différents syndicalistes de ces professions, ils tiennent tous le même discours.
C'est tout le système qui a à revoir.
Ah bah c'est certainement pas tout le système, mais c'est certainement le financement qui est à revoir. Vous savez, on nous dit tout le temps, mais on ne peut pas augmenter parce que déjà, on est le pays qui paye le plus d'impôts. D'abord, ce n'est pas vrai. Et puis, en outre, il faut voir où va l'argent public. Il y a quand même 160 milliards chaque année qui partent en subventions aux grandes entreprises. 160 milliards d'argent public. C'est pratiquement 3 fois le budget de l'éducation nationale. Alors, donc voilà. Donc, est-ce que des entreprises qui font des milliards de bénéfices et qui donnent des milliards de bénéfices au CAC 40, à leurs actionnaires, est-ce qu'elles ont besoin d'avoir des milliards de subventions, hein? Voilà, moi la réponse c'est non, quoi, c'est clair. Quand on touche des subventions, il faudrait pas que dans la même année on donne des dividendes à ses actionnaires, sinon l'argent public part directement dans les poches des actionnaires, hein? Voilà. Par contre, voilà, donc arrêtons de dire qu'on paye beaucoup d'impôts en France. En effet, on paye beaucoup d'impôts en France, mais regardons où va l'argent. Hein, 160 milliards qui partent aux grandes entreprises, parce que ce n'est pas les petites qui ont les moyens de toucher les subventions, c'est les grosses qui sont très fortes là-dessus. Je ne parle même pas des fonds européens. Hein, et donc, il y a de l'argent à aller chercher. Il faut le remettre aujourd'hui dans les services de l'État, éducation nationale, justice, santé, voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Leroy, d'être venu dans notre studio.